Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h43, Emmanuel Macron a annoncé lundi soir pendant le grand débat avec les intellectuels que la suppression de l'impôt sur la fortune, sujet incontournable de la crise sociale actuelle, pourrait être conditionné si les objectifs n'étaient pas atteints. Il a néanmoins réaffirmé qu'il n'y aurait pas de Big Bang fiscal. La sortie de crise pourra-t-elle se passer du grande réforme fiscale? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Thomas Porcher. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes membre des économistes atterrés et professeur à la Paris School of Business. Et puis, vous étiez dans le mouvement Place publique en compagnie de l'essayiste Raphaël Glucksmann. Je lis dans Le Canard enchaîné que vous ne faites plus partie de ce mouvement Place publique. Vous avez décidé de le quitter, Thomas Porcher. Pourquoi avez-vous décidé de le quitter?
Alors, j'ai décidé de le quitter parce que j'étais pas en accord avec la stratégie qui visait de s'allier au PS. En fait, au départ, quand on a créé ce mouvement avec Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian et d'autres, on avait pour but de mettre la société civile au cœur des institutions et de faire un large rassemblement à gauche. Or, à la fin, on s'est retrouvé finalement dans une impasse, cornérisé avec le PS, les autres partis ne voulant pas faire campagne avec nous, Génération, le PC et même la France Insoumise qu'on avait invité. Et donc là, il y avait cette question de est-ce qu'on va aux européennes ou pas, qui est une question quand même très dure. Quand vous avez créé un mouvement, vous êtes investi pendant 3, 4 mois et 6 mois avant pour créer ce mouvement, il y a quelque chose d'enthousiasmant. Vous vous dites, est-ce qu'on va à l'élection ou est-ce qu'on laisse passer notre tour avec ce risque, finalement, de mourir? Mais au final, j'étais pas en accord avec la politique, même si le PS a dit qu'il a fait un inventaire, mais avec la politique qu'il a menée ces deux dernières années, et avec un certain nombre de
le
personnes.
Le PS n'est pas assez à gauche pour vous?
Pour moi, c'était pas. Voilà, je dis pas que tout le monde. On a rencontré plusieurs fois Olivier Faure, on a rencontré Vallaud plusieurs fois, qui sont des gens qui sont au PS, mais qui. Boris Vallaud, j'ai rien contre eux. Mais globalement, la machine bureaucratique qu'est le PS me semblait, moi, toujours vivante. Donc, me retrouver dans une liste, sur une liste, coincé entre un soutien de Le Foll parce qu'il faut que toutes les tendances soient représentées à l'élection, puis un ancien valsiste, c'était pas quelque chose qui m'enchantait.
Impossible de gauchir le PS si c'était votre projet. Vous pensez que c'est pas quelque chose de praticable en l'état?
Moi, je pense que c'était le pari de Raphaël Glucksmann. Je pense que c'est son pari de dire que voilà, le PS va changer avec lui en tête de liste. Moi, je suis pas sûr. Je pense que Place Publique est un mouvement effectivement jeune, sympathique, qui a levé beaucoup d'espoir chez les gens. Mais je pense pas qu'on puisse changer cette machine, même si elle affaiblit aujourd'hui, qui existe depuis si longtemps. Et puis moi, personnellement, en termes politique, c'était moi qui faisais la plus grosse diagonale. Parce que le pari au départ de Place Publique, c'était quoi? C'était de dire, grosso modo, on peut être différent. Raphaël, c'est plutôt un social-démocrate. Moi, je suis plutôt d'une gauche un peu plus radicale. On peut être différent, mais il existe des passerelles entre nous quand il s'agit de répondre à ces quatre urgences qu'on avait mis en avant, notamment l'urgence écologique, sociale, etc. Ce qui était cette idée-là. Sauf que là, je me rends compte que Raphaël Glucksmann se retrouve plus sur sa ligne, qui est une ligne social-démocrate avec le PS, PS ou peut-être Génération, mais qui est plus sur sa ligne, alors que moi, je faisais une vraie diagonale politique. Donc, j'aurais pas assumé. Je pense qu'en pleine campagne, je serais parti en vrille et ça aurait pas été bon, y compris pour la campagne, y compris
parti
pour les.
Mais
je pense que il y avait eu déjà, on avait fait déjà un meeting à Toulouse où on était avec Madame Delga, qui avait passé un certain temps à faire elle devait parler 10 minutes, elle a parlé 25 minutes sur son bilan en Occitanie avec le PS alors que c'était une ancienne valsiste. Voilà, moi il n'y avait pas de souci, ça m'avait mis un peu mal à l'aise, j'étais obligé de passer après par le bilan du PS, la loi travail, la déchéance de nationalité, ce qui avait mis tout le monde mal à l'aise. Donc je pense que effectivement en plein milieu de la campagne, ça aurait été contre-productif pour moi et compris
pour
eux. Vous n'y avez
pas gêné les gens, Thomas Porcher, parce qu'il y a un petit écho dans Le Canard enchaîné dont je suis obligé de porter à votre connaissance la teneur, lequel dit que finalement vous avez quitté Place Publique parce que vous demandiez une place de numéro 3 sur la liste.
Alors non, je demandais rien. La réalité, c'est que dans les négociations, moi, on m'a promis une place éligible. Alors on vous dit pas la place, mais la place éligible, quand on voit que le PS à 5%, c'était probablement dans les 5 premiers. On m'a dit qu'il y aurait une place éligible. On était sûr d'une chose, c'est que Raphaël allait prendre la tête de liste dans les négociations. C'était ce que voulait le PS. C'était pas ce que voulaient peut-être d'autres partis de gauche, mais c'est ce que voulait le PS. Qui prennent la tête de liste. Et après, il fallait mettre des gens de Place Publique. Je pense que Raphaël avait intérêt à ce que j'ai une bonne place. Et je pense qu'il militait pour que j'ai cette troisième place. Il était même question un jour, enfin, dans les messages. J'ai pas envie de tout dévoiler, mais il y a des messages que l'on a.
Si vous voulez, allez-y.
Il y a des messages que l'on échangeait entre nous. Et la première fois qu'on a sondé, on va dire, les premiers signataires, qui ont fondé ce parti, qu'on les a sondés comme ça, hein, en disant est-ce qu'on va avec le PS ou pas, il était question dans ce message-là du 26 février, qui a été écrit par Raphaël, il était question que je sois troisième. Et à cette époque-là, j'ai répondu non, moi. Et la majorité des gens qui aujourd'hui font campagne ont répondu aussi non. Donc voilà, donc troisième peut-être ou cinquième, je ne sais pas, mais j'étais sur une place éligible sûre. Et Aurore Laluc, là on dit qu'elle est deuxième dans l'article, elle dans l'interview qu'elle a dit, elle a dit qu'il n'y avait pas encore de place. Donc voilà, je pense que là les gens, c'est de la légitime défense et c'est normal qu'ils disent ça. Moi je les ai pas prévenus de mon départ. Je suis parti comme ça en début de campagne, voilà. Mais je garde encore des très bonnes relations avec Raphaël que par ailleurs j'apprécie, même si on a des divergences politiques.
Bon, on va quitter la lutte des places pour la lutte des classes. On va entendre Emmanuel Macron lundi soir, un débat retransmis par France Culture. Il était question de l'ISF. Écoutez Thomas Porcher.
Je trouve un des points qu'on n'a pas assez bien expliqué sur ce sujet-là. Le cœur de la réforme de la fiscalité du capital, c'était de réattirer du capital productif ou de le garder en France. Et donc là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir évaluer l'impact que ça a en termes de redistribution et regarder l'efficacité de la mesure. Et moi, je vais être très clair, s'il est observé qu'elle n'est pas efficace, il faut la corriger. Et il faut peut-être conditionner davantage, sur la partie ISF qui a été totalement supprimée, la part de réinvestissement. Ça, là-dessus, moi, je suis extrêmement pragmatique.
Ce qui veut dire, Monsieur le Président, que s'il est documenté, par exemple, il peut y avoir un retour partiel de l'ISF.
Bien, ça veut dire qu'il doit y avoir une évaluation qui soit scientifiquement faite et qui alimente d'ailleurs les travaux du Parlement sur ce sujet pour regarder l'efficacité productive de ce choix qui a été fait.
Emmanuel Macron, lundi soir à l'Élysée, Thomas Porcher, une porte, disons, à demi ouverte sur un retour partiel de l'ISF, ou en tout cas une évaluation. On sait ce qu'évaluation veut dire en politique. Votre regard là-dessus?
Mais moi, je pense qu'il aurait dû le faire dès le début. En fait, Emmanuel Macron, il dit, voilà, on va retirer l'ISF sur les placements financiers, avec cette idée que les gens, comme ils ne paieront pas l'ISF, ils investiront cet argent. Donc, grosso modo, c'est 4 milliards qu'on a fait comme cadeau à ceux qui payent l'ISF, hein, les 1% les plus riches qui détiennent déjà 25% du patrimoine, avec ce pari que ces 4 milliards seraient réinjectés dans l'économie. Sauf que, en général, quand vous récupérez cet argent, vous n'êtes pas obligé de l'investir dans une start-up ou dans une entreprise. Vous pouvez aussi acheter des actions en bourse. Et quand vous achetez des actions, ça se fait, dans 99% des cas, sur le marché secondaire. C'est-à-dire que ces actions sont déjà émises. Donc elles ne profitent pas à l'entreprise, elles profitent à celui qui vous vend les actions. Donc c'est de la spéculation, en fait. Donc je récupère 4 milliards, je fais partie des 1% les plus riches, je récupère 4 milliards, j'achète des actions, et c'est vous à qui j'achète les actions qui profitez de cet achat. C'est pas les entreprises dans lesquelles on investit. Donc si Emmanuel Macron voulait vraiment que cet argent il coule comme ça et qu'il aille directement dans les entreprises, il aurait dû, tout simplement sur la feuille d'impôt, conditionner comme il le dit et dire, voilà, à partir du moment où vous investissez cet argent dans une entreprise et que vous le prouvez, et bien dans ce cas-là, vous êtes exonéré d'impôt sur la fortune, sur les placements financiers. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait, il a fait un pari. Et là, il dit, maintenant, on va l'évaluer. Ben, moi, je dis, évaluons-le, mais ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, là, en supprimant l'ISF, ça a déjà été fait en réalité dans d'autres pays. Ça a été fait dans les années 80 aux États-Unis où on a baissé la fiscalité sur les hauts revenus. Ça a été fait au Royaume-Uni. Quel impact ça a eu? Ça, c'est une vraie question. On a déjà des travaux qui existent. Pourquoi il s'appuie pas sur ces travaux-là?
Alors, que disent ces travaux, Thomas Porcher?
Ces travaux disent que, en réalité, non. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez les inégalités qui ont augmenté très fortement dans ces pays-là. Beaucoup plus fortement qu'en France où on a un système fiscal plus redistributif, même si elles ont augmenté quand même. Les inégalités ont augmenté. Vous avez une grosse partie de la population qui a stagné quand les 1% les plus riches ont vu leur revenu augmenter. Et la conclusion, la finalité de ça, c'est que cette politique très inégalitaire a déroulé le tapis rouge à des Trump, au Brexit, en Italie, à des Salvini. Donc voilà, je suis pas sûr que la politique non redistributive que mène Emmanuel Macron et qui vise à rattraper finalement notre retard que nous avions sur ce type de politique non redistributive fiscale qui avait été appliquée aux États-Unis et au Royaume-Uni prépare le meilleur des avenirs pour la France. Moi, je pense que ça déroule le tapis rouge aux partis xénophobes.
C'est facile aujourd'hui, on va reparler de ça, mais c'est facile d'évaluer les conséquences de la suppression d'un impôt, Thomas Porcher. Est-ce que c'est juste une question donc de science économique ou bien une évaluation, c'est toujours finalement un subterfuge politique pour faire dire un peu ce que l'on veut à des équations ou à des raisonnements économiques en l'occurrence?
La première évaluation qui est la plus simple, c'est l'évaluation en termes de perte de rentrée fiscale. Bon, ça, on la connaît. L'ISF, c'est 4 milliards, l'ensemble des réformes.
Elle avait été largement sous-évaluée dans le programme.
Oui, d'Emmanuel dans le programme, oui, effectivement. Et l'ensemble des baisses de fiscalité dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est plus de 20 milliards à peu près, c'est à peu près ça. Bon, ben voilà, ça, on évalue les coûts. Donc, c'est moins de rentrées fiscales. Et puis, de l'autre côté, comme il y a moins de rentrées fiscales, eh ben, on peut moins faire de sorties. Et vous regardez 20 milliards de baisses d'impôts prévues sous le quinquennat Macron. Et puis, de l'autre côté, vous avez 25 milliards d'économies sur la sphère sociale, par exemple. Donc, voilà, ce que l'on donne à certains d'un côté, eh ben, on va le couper de l'autre côté. Et on va le couper sur le service public, sur les prestations sociales qui ont fait débat, sur les aides sociales qui ont fait débat, sur les APL, sur l'assurance chômage que l'on va réformer, sur plein de choses. Et donc voilà, là la vraie question elle est là, c'est qui est-ce qui profite finalement de ces baisses de ces baisses de fiscalité et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en contrepartie. Maintenant sur l'évolution, sur l'impact économique, là en France, ben, moi j'attends de voir, hein, j'espère qu'il fera cette évaluation sur le capital, comme il dit, le retour du capital ou l'investissement, qu'il la fera très rapidement avant la fin du quinquennat. Mais sur des temps longs, ça a déjà été fait dans d'autres pays. Donc on peut avoir quand même, même si on ne peut pas comparer tous les pays comme ça, mais on peut avoir quand même des informations là-dessus.
Mais avant, oui. Excusez-moi.
Allez, oui, je vous en prie.
Non, parce que ce que l'on se demande du coup en vous écoutant, Thomas Porcher, c'est cette somme d'argent qui est investie par les riches dans l'économie, puisque finalement c'est cela tout le discours qui consiste à dire si les riches s'en vont, l'économie va s'appauvrir. Alors on peut ou non considérer que le ruissellement est un fait, mais en tout cas il y a toujours eu cet argument invoqué. Est-ce qu'on est capable de le quantifier? Est-ce qu'on sait à peu près quelle est la contribution des riches à l'investissement? Quelle est la contribution des riches au fonctionnement de l'économie? Est-ce que ça a un sens de poser la question ainsi?
Je pense que c'est plus difficile à évaluer que les rentrées fiscales, mais je pense moi personnellement que l'impact des riches, on va dire, sur l'économie, comme on le dit, est largement surévalué. Et pourquoi c'est largement surévalué? Parce que dans les pays où on n'a jamais eu autant de riches, l'économie n'a pas si bien fonctionné. Vous regardez les États-Unis. Les États-Unis, vous aviez les 1% les plus riches qui explosaient, qui détenaient une très grosse partie en termes de richesse du patrimoine américain. Eh ben, ces 1% ne pouvaient pas soutenir à eux tout seuls la consommation américaine. Parce que c'est la masse, en fait, qui soutient la consommation américaine. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des crédits à la consommation, type subprime, etc., pour doper l'économie américaine. Et on a vu ce que ça a donné, la crise, enfin la surchauffe, etc.
C'est-à-dire ce que vous expliquez de Thomas Porcher, pour éclaircir, pour que tout soit clair sur ce point, comme il y avait un pouvoir d'achat insuffisant des classes les moins aisées, on a financé avec du crédit l'insuffisance de ce pouvoir d'achat, et à la fin on a atteint une bulle parce que ces ménages étaient insolvables.
Tout à fait, il y avait même des crédits, il y avait un crédit qui s'appelait Ninja, No Income, No Job, No Asset, c'est-à-dire vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de patrimoine, d'accord, mais on vous prête de l'argent. Et d'ailleurs, pour avoir ce crédit, il fallait ne pas avoir payé un ancien crédit pendant 3 mois dans l'année. Donc vous voyez, il fallait vraiment être pauvre. Et là, il fallait vous prêter de l'argent parce qu'il fallait que la consommation continue. Parce que vous savez, les très riches sont peu nombreux. Même s'ils achètent une voiture tous les jours, parce que ça ne suffira pas à faire les ventes globales d'un grand constructeur automobile ou autre chose. Donc il faut que ce soit la masse. Et la masse, il faut qu'elle ait des revenus. Voilà. Pour qu'elle ait des revenus, soit vous augmentez les salaires, soit vous faites 70% du revenu des 10% les plus pauvres, c'est des prestations sociales qu'on leur redonne finalement. Donc, soit vous augmentez les salaires, soit vous redonnez des prestations sociales qui leur permettent de libérer du salaire indirectement parce que vous les aidez à payer leur logement, etc. Donc là, il y a cette vraie question-là. Et maintenant, sur le fait que la fiscalité fait fuir les riches, et dans le cas de la France, c'est quelque chose de faux. Parce que vous regardez le nombre de personnes qui payent l'ISF. Quand vous payez l'ISF et que vous ne voulez plus le payer parce que vous allez vous installer à l'étranger, vous allez vous notifier tout de suite à l'administration fiscale en disant « je ne veux plus le payer ». Vous n'allez pas le payer, donc vous allez voir, vous dites « je ne veux plus le payer, je pars ailleurs ». Vous avez le droit de le faire. Eh bien, il y en avait combien qui partaient par an? 800. Vous aviez 800 contribuables qui payaient l'ISF, donc dans les 1% les plus riches en France, qui partaient par an. 300 qui revenaient quand même. Donc ça faisait 500 soldes nets qui partaient. 500 personnes. Sur plus de 340 000 ménages qui payent l'ISF. Donc vous voyez, qui augmentent. C'était rien du tout. C'était très peu. C'était moins de 0,5%. Et la réalité, c'est que cette perte-là, en termes de rentrée fiscale, parce que là on la mesurait, elle était évaluée par Bercy en 10 ans, hein, c'était 170 millions par an. Allez, on va dire que maintenant, avec le rendement, ce serait peut-être 250 ou 300 millions.
Donc c'est négligeable.
Rien par rapport aux 4 milliards qu'on a accepté de perdre avec cette réforme. Donc dire qu'on fait cette réforme pour pas que les gens fuient et perdent 4 milliards, alors que quand il n'y avait pas cette réforme, on touchait 4 milliards et qu'on perdait que 170 milliards, c'est une aberration économique. 170 millions, pardon, c'est une aberration économique.
Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a une situation où, avec la crise des gilets jaunes, il y a une tentation d'évaluer, en tout cas, la manière dont la fiscalité s'applique en France. Qu'est-ce que vous feriez, Thomas Porcher ?
Alors, la première chose, c'est que je ne partirai pas dans ce qu'on a fait ces 10 dernières années, c'est-à-dire que je ne ferai pas des baisses successives de fiscalité partout. Grosso modo, on a baissé entre 2000 et 2010, on a perdu 130 milliards de rentrées fiscales via des réformes, des contre-révolutions fiscales. Déjà, je ne ferai pas ça.
Et là, vraiment, parce qu'on on a l'impression plutôt que la CSG s'applique de plus en plus.
Bien sûr. Hollande a essayé de redresser, mais au mauvais moment, parce qu'on n'était pas encore sortis de la crise.
Parce qu'on a parlé d'enfer fiscal, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce
quand
terme.
Quand on regarde l'ensemble, vous regardez les niches fiscales, vous avez plus de 400 niches fiscales, même des économistes libéraux qui ont conseillé Macron disent qu'il faut en finir. Hein. Les niches fiscales, elles font perdre plus que le déficit français, vous voyez. Vous avez plein de dérogations sur les impôts. Donc tout ça, c'est quand même des choses vous voyez, qui sont importantes, qu'il faudrait remettre à plat. Donc on a perdu quand même l'impôt, le rendement de l'impôt a diminué quand on regarde sur 15-20 ans, ça c'est sûr. Donc je ferai attention, voilà. Que la fiscalité soit très progressive, qu'elle ne repose pas sur la consommation comme la taxe carbone ou la TVA, qu'elle soit progressive. Et puis surtout, j'essaierai de lutter contre l'évasion fiscale en plaçant des gens, justement, aux impôts. Ce qui se passe avec Emmanuel Macron, c'est qu'il veut réduire 120 000 postes de fonctionnaires, principalement dans les impôts. Il y a un vrai paradoxe.
D'un côté, on se dit aussi que le prélèvement à la source peut-être permettre d'économiser un certain nombre de postes aux impôts.
Oui, peut-être, mais bon, moi j'aimerais bien qu'il me dise sur la fonction d'État comment il va faire pour supprimer autant de postes, sachant qu'il s'est engagé à ne pas supprimer des postes dans la justice, les armées, l'éducation et l'hôpital. Donc les impôts vont avoir une suppression de postes qui est assez énorme.
Thomas Porcher, économiste atterré, on vous retrouve dans environ un quart d'heure pour continuer à évoquer la situation en France. On va notamment évoquer une possible réforme de la fiscalité sur les successions et vous serez rejoint par un autre économiste, Nicolas Frémaux. Il est 8h sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et oui, je crois que cet invité que l'on va faire réagir immédiatement, c'est l'économiste Thomas Porcher et à côté de lui un autre économiste, Nicolas Frémaux, qui s'est penché sur la question de l'héritage puisqu'il y avait consacré un ouvrage publié aux éditions du Seuil, Les Nouveaux Héritiers, avant d'évoquer la réforme possible de la fiscalité ou alors la réforme souhaitable de la fiscalité. Thomas Porcher, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs.
Bon, y a des choses vraies. C'est vrai qu'on était un nouveau parti, on se voulait citoyen. Après, on ne peut pas comparer quand même le passé de Raphaël Glucksmann à celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie, il avait quand même un réseau fort, il avait un programme sur mesure pour satisfaire un certain nombre de gens qui avaient du capital, notamment via les baisses de fiscalité, ce qui faisait qu'ils pouvaient faire des levées de fonds probablement plus intéressantes que nous, qui avions un programme de gauche, on voulait réhabiliter l'ISF, etc. Après, effectivement, sur le programme qu'on n'arrivait pas à complètement définir, c'était parce que nous avions des colonnes vertébrales politiques différentes. Mais c'était le but à la base de ce mouvement, de se dire que voilà, il peut y avoir une aile gauche plus à gauche que je devais incarner, une aile plus SOSDEM que Raphaël social-démocrate que Raphaël,
je déplie les accros,
voilà, que Raphaël les abréviations devait représenter, mais que l'on pouvait s'accorder, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait une large alliance, que l'on pouvait s'accorder sur des points communs, qu'on avait mis 10 points communs, que le PS a soi-disant rallié, mais on verra si le PS les appliquera.
Mais vous en parlez au passé,
Frédéric,
c'est ça qui est intéressant.
Mais j'en parle au passé parce que j'en fais plus partie. Mais après, j'ai quand même passé 3-4 mois avec ces gens. J'ai des très bons rapports encore avec Raphaël et avec des gens du mouvement qui se sont investis bénévolement. Donc voilà, j'en suis parti. C'était vraiment sur une ligne de fond. Mais sur ce qu'on a voulu créer, c'était quand même quelque chose d'agréable, d'enthousiasmant, de jeune. Et on n'avait pas toutes les boîtes de com, etc., professionnalisantes, qui sont là pour faire élire quelqu'un président. On était tous des bénévoles sympathiques qui organisions nous-mêmes nos soirées. Donc il y avait un côté très sympathique. Maintenant qu'une machine nous rejoigne comme ça, effectivement, qui, elle, est organisée, avec des fédéraux, qui est là, qui est résistante, etc., et qui a toujours fait des programmes de gauche quand ils étaient en dehors du pouvoir, mais dès qu'ils sont au pouvoir, ils ont souvent changé d'avis, hein, alors qu'ils voulaient changer d'avis avant. Bah là, je me suis dit, moi, j'avais pas envie d'être la caution de gauche de ça, quoi.
Mais alors, Frédéric Seitz,
on insiste dans la politique d'appareil, et puis on reviendra évidemment au fond, mais vous parliez d'une fracture justement sur le fond. Ce n'est pas ce que eux disent, notamment Jérôme Carsenti, qui fait partie des personnalités de Place Publique et qui dit que vous avez quitté le mouvement juste parce que vous n'avez pas obtenu de place éligible.
Non, moi, là, il était question que j'obtienne une place éligible parce que justement, j'étais la caution de gauche. Du PS, ils étaient très contents de m'avoir. Alors maintenant, probablement, ils sont très contents d'avoir Aurore Lalu, qui sera la caution de l'Alliance Génération. Donc il faudra la mettre en position éligible.
De chez Benoît Hamon.
De chez Benoît Hamon, que par ailleurs, et qui est une économiste très forte et très à gauche. Mais voilà, moi, il était question que je l'ai. Après, moi, je suis un peu triste que Jérôme Carsenti, qui était opposé à l'Alliance au PS au départ, qui aujourd'hui accepte d'aller comme ça sur Twitter se faire pulvériser le pauvre alors que les autres n'ont rien dit. Donc c'est triste pour lui. Enfin voilà. C'est...
Nicolas Frémaux, ça vous intéresse, vous, d'entrer en tant qu'économiste dans un parti politique ? L'action publique, c'est quelque chose qui pourrait vous attirer ?
Oui, ça pourrait. Je pense que c'est assez important pour les économistes de s'engager. Je pense que Thomas Porcher le fait assez bien. Elle l'a fait dans ce mouvement. Donc je trouvais ça assez enthousiasmant comme mouvement, justement, d'avoir des gens qui n'étaient pas des professionnels derrière. Après, moi, j'ai pas vocation à être encarté dans un parti, mais si je peux aider. Et le principe du livre, justement, c'était de proposer des choses.
Vous pouvez nous aider, en tout cas, ce matin, dans les matins, à tenter de définir ce que pourrait être une politique fiscale de gauche. Qu'est-ce que vous feriez ? Quelles sont les décisions ou les leviers que vous pourriez actionner, Nicolas Frémaux ? Vous avez écrit un ouvrage sur l'héritage, peut-être que vous avez des idées là-dessus.
Oui, quelques-unes, oui. Non, mais la question des successions, pour moi, enfin, de l'héritage en général, c'est vraiment une question de société qui est très importante. Et au-delà de la simple, qui n'est pas si simple que ça, la simple question de fiscalité, c'est avant tout un vrai choix de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a un retour très marqué des héritages en France et on retrouve le phénomène dans d'autres pays.
Pourquoi un retour très marqué ? Parce que cela fait longtemps que les gens meurent et transmettent des héritages.
Oui, mais pendant certaines époques, disons, autour des années 70, ils mouraient, enfin les gens mouraient toujours, évidemment, mais avec plus forcément grand-chose. Donc il y a eu des chocs patrimoniaux au début du XXe siècle.
C'est-à-dire que là, ils meurent plutôt riches. Pour les riches.
Ils meurent plutôt riches, oui, c'est ça. On meurt avec beaucoup. Il y a aussi des taux de mortalité. Donc, les gens meurent davantage aujourd'hui parce qu'on a aussi ce rôle du baby-boom. Donc, il y a une mortalité là, qui est un phénomène temporaire qui joue aussi sur le phénomène. Donc, on a aussi un enrichissement donc, du patrimoine des vivants des individus et les gens meurent avec du patrimoine. Donc, on a des montants transmis qui sont assez importants aujourd'hui. Ouais.
Alors, faut-il alourdir la fiscalité sur les héritages ? Emmanuel Macron, lundi soir, lors de ce débat retransmis par France Culture face à 65 intellectuels, Emmanuel Macron a déclaré ceci.
Je suis très sensible à la problématique héritage et construction de son destin. Mais je ne pense pas qu'on y réponde là encore avant tout par la fiscalité. On y répond par l'émergence des talents. Ceux qui ont créé Google n'avaient pas de capital hérité. Mais ils ont eu un système où la mobilité sociale a mieux fonctionné que peut-être dans le nôtre. La question pour moi, c'est comment je vais faciliter la création de nouveaux capitaux par des talents, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale. Que ce soit d'ailleurs du capital financier, du capital productif, du capital humain, du capital de reconnaissance. Et mon problème aujourd'hui, quand je regarde la France, c'est que la création de capital nouveau par des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui sont issus de l'immigration, qui viennent de certains quartiers, n'est pas suffisamment importante. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon système éducatif, dans mon enseignement supérieur et dans les représentations et les modes de fonctionnement que j'ai dans la société, y compris d'ailleurs dans le recrutement que j'ai au sein de l'État.
8h28 sur France Culture, on vient d'entendre Emmanuel Macron refusant un alourdissement de la fiscalité sur le patrimoine. Nous sommes en compagnie de deux économistes, Thomas Porcher et Nicolas Frémaux. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Frémaux.
C'est un peu le problème du grand débat, c'est-à-dire qu'on laisse croire que tous les sujets sont sur la table, sauf qu'on les balaye d'un revers de la main assez rapidement. C'est pareil pour l'ISF, c'est pareil pour les droits de succession. Donc on dit simplement, et il a le mérite au moins d'être cohérent depuis le mois de septembre en disant tant que je serai là, en fait, on fera rien sur les droits de succession. Donc,
il a raison ou il a tort ? Alors bon, pour vous, je sais qu'il a tort, mais expliquez-nous pourquoi.
Il a tort parce que c'est aujourd'hui on a un niveau d'inégalité en France qui est relativement stable en fait, donc ça n'a pas explosé encore comme aux États-Unis, mais rien ne nous dit qu'on va échapper à ce phénomène-là. Et ce qui est important, c'est qu'on a un changement en fait dans la formation des inégalités. C'est que pendant longtemps, finalement, dans les années 70, on avait des générations qui accumulaient beaucoup de patrimoine, donc qui se faisaient, on va dire, toutes seules. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est plus du tout le cas. C'est qu'aujourd'hui, pour être riche, il faut surtout être né au bon endroit au bon moment, et c'est le rôle de l'effort et du mérite a tendance à décroître. Donc c'est un phénomène qui est assez important au-delà vraiment du niveau d'inégalité qui joue déjà sur la cohésion d'une société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens n'ont plus l'impression de vivre dans la même société, c'est compliqué de leur dire d'adhérer au bien commun, d'être des bons gentils citoyens. Si en plus, et c'est là que l'héritage intervient, si en plus ces inégalités sont perçues ou objectivement non méritées, ça devient encore plus compliqué. Donc c'est un vrai danger derrière.
Pourquoi ça, Nicolas Frémaux? Parce que on nous raconte beaucoup d'histoires, par exemple, de start-up qui débutent sur un coin de table et qui réussissent à la faveur d'introduction en bourse triomphante, qui réussissent à accumuler beaucoup d'argent. Ça existe dans les livres, c'est plus un mythe qu'un fait.
Ça a toujours existé. Donc, on n'est pas en train de, enfin, là, je suis pas en train de dire qu'on revient à une société de caste où tout est joué à la naissance. Mais disons que ça importe de plus en plus. Mais là, ce qui est assez drôle, c'est que, donc, Emmanuel Macron prend l'exemple des fondateurs de Google qui sont allés à Stanford où les études valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin, de dollars par an. Donc, dire qu'ils ont aucun patrimoine financier. D'accord, leurs parents étaient pas milliardaires, mais pour rentrer à Stanford, faut quand même avoir un petit capital financier. Et les États-Unis, c'est un pays, justement, où c'est assez paradoxal, où la mobilité est quand même très faible et c'est pas l'image du tout qu'on en a.
Mais alors, au-delà de ça, Thomas Porcher, comment fait-on pour devenir riche en France? Est-ce qu'aujourd'hui, pour devenir riche, il faut être dans une famille riche? Est-ce que l'accumulation de capital est un exercice plus compliqué aujourd'hui qu'hier?
La façon la plus simple de devenir riche aujourd'hui, c'est le privilège de la naissance. Hein, bon, si vous êtes né du bon côté, voilà. Parce que, en fait, et ce qui est assez hallucinant, c'est que le patrimoine privé, aujourd'hui, donc, est dans une santé insolente. C'est quoi le patrimoine du pauvre? C'est le patrimoine public. C'est le service public. Et le patrimoine public, on vend les aéroports, on le réduit de plus en plus via les coupes. Et le patrimoine privé, il a augmenté. Il est égal à 6 fois le PIB, 5 fois le PIB français. Donc le patrimoine privé est dans une santé insolente. Donc ça nécessite quand même d'adapter, pour moi, la fiscalité, en tous les cas des successions, ou de la revoir, de fait qu'elle soit plus progressive et qu'elle ait un meilleur rendement. Maintenant, sur comment réussir en France. Effectivement, là, ça a été très, très bien dit par Nicolas Frémaux, c'est-à-dire que aux États-Unis, les gens ne sont partis peut-être de rien, mais ils ont fait des études qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Et puis vous avez aussi un État qui a permis à ces entrepreneurs de devenir très riches. C'est-à-dire que Internet, c'est qui l'a inventé? C'est les États-Unis. Enfin, aujourd'hui, vous regardez l'iPhone. Il y a un très bon livre qui s'appelle L'État entrepreneur d'une économiste qui s'appelle Mazzucato et qui vous montre en fait que Steve Jobs n'aurait pas pu réussir ailleurs qu'aux États-Unis. Pourquoi il a réussi? Et parce que en fait, ce qui fait aujourd'hui de l'iPhone un smartphone et pas un stupidphone, c'est que tout Internet, la reconnaissance vocale, le GPS, tout ça a été inventé grâce à des financements publics de l'État américain. Et c'est des entrepreneurs qui reprennent ces inventions et qui en font ensuite quelque chose de génial.
Mais alors, moment en France, pardonnez-moi, je vous ai coupé, ouais. Thomas Porcher, on entend justement en France, en ce moment, je l'ai entendu hier, que Huawei ne pourrait pas être français. D'ailleurs, de fait, n'est pas français, il est chinois. Et c'est comme les auditeurs le savent, un constructeur notamment de smartphones. Comment explique-t-on qu'en Chine aussi, il y ait de gros constructeurs de...
Et même en Corée du Sud. Le bras de fer entre iPhone et Samsung, c'est le bras de fer entre les États-Unis et un petit pays divisé et en guerre qui est la Corée du Sud. Où est l'Europe? Il y a une vraie question. Mais parce que
vous expliquez ça?
Mais parce qu'en amont de toutes les chaînes d'innovation, c'est-à-dire au tout début, il faut de l'investissement public pour de l'innovation. C'est ça. Et là, chez nous... Cette question, elle est à peine posée, où on va mettre 5 milliards, 2 milliards, on va pas mettre suffisamment d'argent. Et c'est ça, c'est comme ça que vous faites une innovation de rupture.
Je vais me faire l'avocat du diable, pourtant, je ne sais pas, il y a le CNRS en France, il y a un certain nombre de chercheurs.
Il y a de la recherche publique et de très haut niveau. Hein. Vous avez des incitations fiscales sur la recherche qui fait qu'on est presque un paradis fiscal sur la recherche. Mais à un moment, le nerf de la guerre, c'est l'argent que vous mettez. Il faut que l'État tente. Il a tenté des choses, l'État. Comme le Concorde, parfois ça a réussi, parfois le TGV. Ça, il y a eu de l'argent public qui a été mis, qui a fait de l'innovation de rupture.
Il y a eu aussi le plan calcul sur l'informatique qui n'aboutit à rien.
Qui aurait pu peut-être aboutir si à un moment on avait mis... Parce qu'à un moment on avait réussi, peut-être que si on avait mis plus d'argent, on aurait pu concurrencer les... Enfin à un moment c'est des choix, mais il faut prendre...
Le Minitel est un bon exemple, puisqu'on a été...
Peut-être qu'on n'a pas mis... Mais peut-être que, vous savez, dans les années 90, pareil, ils ont mis énormément d'argent, d'ARPANET, etc. pour faire Internet. Ils ont mis quand même le turbo, les États-Unis. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même, au final, l'argent que vous êtes prêt à mettre. Aujourd'hui, vous regardez les innovations qu'on a loupées dans les hautes technologies. Vous regardez dans les jeux vidéo, partout, la France a été très peu présente. Alors, il faut se trouver maintenant une filière, et la transition énergétique pourrait en être une, où là, on met de l'argent public avec un plan d'investissement de long terme pour être numéro un, comme on l'a fait pour le plan nucléaire, comme on l'a fait pour les TGV, comme on l'a fait pour le Concorde, mais comme on ne le fait plus depuis les années 80-90 en Europe.
Nicolas Frémaux, si on poursuit donc cette idée, la question donc de la fiscalité sur l'héritage. Emmanuel Macron disait que c'était politiquement injouable. Alors peut-être que vous avez raison sur le fond, vous avez publié un ouvrage intitulé « Les nouveaux héritiers ». Votre raisonnement se tient peut-être sur le plan économique, mais j'espère, si les Français n'en veulent pas.
Bah c'est ça le problème, c'est ça le paradoxe. Il joue sur la bonne corde. C'est-à-dire qu'il y a deux arguments d'opposition à la fiscalité des héritages. C'est des arguments économiques et qu'on retrouve aussi pour l'ISF et pour d'autres impôts, qui sont de dire si on se met à taxer l'héritage, les successions en général, les gens vont arrêter d'épargner, vont partir, vont soit vers l'évasion fiscale ou de l'exil fiscal. Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser, qu'il faut pas balayer d'un revers de la main. Le problème c'est que dans les faits, en fait, on les retrouve pas. Donc dans les travaux théoriques qui existent, qui devraient être plus nombreux, on devrait avoir plus de données pour évaluer ça, mais en fait on a tendance justement à les rejeter, en tout cas à les minimiser fortement. L'autre élément qui est plus important, qui est vraiment central et sur lequel joue Emmanuel Macron, c'est le côté immoral en fait de l'héritage, le rejet de la part de la population. Donc si aujourd'hui il y a un rejet massif de la fiscalité des successions, c'est pas par peur que les plus riches en aillent, c'est par peur d'être
Ah ben parce que là vous pouvez pas partir avec votre héritage.
Non, enfin, vous pouvez partir dans l'évasion ou arrêter d'épargner ou avoir des chats comme ça. Là, c'est plutôt le côté immoral, justement. Donc, c'est le côté, on veut protéger ses enfants, ce qui est tout à fait recevable individuellement. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut pas, moi, je suis pas du tout là pour stigmatiser les opposants à ce genre d'impôt. On peut tout à fait reconnaître, enfin, c'est tout à fait louable de vouloir, le mieux pour ses enfants. Le problème, c'est qu'au niveau macroéconomique, si tout le monde pense comme ça, on accepte une société d'héritiers où clairement, tout le monde ne va pas gagner et assez peu de personnes vont gagner.
Les taux de prélèvement sur l'héritage sont bas en France?
Alors, c'est un peu un paradoxe aussi, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, cet impôt-là a été supprimé, donc dans ce cas-là, c'est une vraie perte. On retrouve ça dans des pays comme la Suède, par exemple, qui sont souvent mis en modèle, justement, des pays qui sont historiquement inégalitaires, qui depuis le début des années 2000 ont supprimé donc l'équivalent de l'ISF, ont supprimé donc l'équivalent des droits de succession, et on voit dans ce pays-là des augmentations d'inégalités assez rapides depuis, donc ils ne sont pas rejoints à la France, mais ils partaient de beaucoup plus bas aussi. Vous avez donc les États-Unis où c'est pas supprimé, mais c'est quasiment vidé de toute substance. Si vous léguez moins de 10 millions de dollars, vous payez rien du tout. Enfin, donc c'est quand même une tendance assez lourde qu'on retrouve dans beaucoup de pays très différents depuis les années 80. En France, on y échappe un peu, mais dès qu'on creuse, en fait, on se rend compte qu'on n'y échappe pas.
En France, la fiscalité sur l'héritage, de quel ordre est-elle?
Ça rapporte à peu près 1% des recettes fiscales, donc c'est loin derrière la CSG, la TVA, etc.
Mais en taux sur les individus?
Alors justement, c'est ça le point que je voulais aborder, c'est que tout dépend qui transmet en fait. Vous avez donc une fiscalité qui est très duale, c'est-à-dire que vous transmettez à vos enfants, le taux moyen c'est à peu près 2-3%, sachant qu'il y a 85% des successions qui vont être exonérées, parce que donc vous avez des abattements, donc ça fait un peu avalanche le chiffre là.
Le taux moyen, ça veut dire le taux en fait au global pour les successions sur un an donné, mais ça c'est au niveau macro, au niveau microéconomique, lorsqu'on prend une famille, la succession, elle signifie quel taux?
Bah justement, ça va dépendre donc de combien vous avez d'enfants déjà, donc ça a des facteurs démographiques, du type de patrimoine. Donc c'est dur de donner un taux moyen parce que le patrimoine d'un individu à l'autre peut changer. Mais si vous avez
pour un cas de figure, taux plutôt à deux chiffres.
Si entre époux, par exemple, tous les successions sont exonérées. Donc si vous transmettez à votre conjoint, vous payez zéro. Si vous transmettez à votre enfant, vous avez un abattement par enfant de 100 000 euros. Donc si vous avez un patrimoine de 200 000 euros et vous avez deux enfants, vous payez zéro d'impôt. Si à côté de ça, vous avez en plus des actifs qui sont exonérés, comme les assurances vie ou les transmissions d'entreprise, vous pouvez transmettre beaucoup plus que ça en payant toujours zéro. Si vous avez, dernière chose, des donations en amont. Non, c'est pour ça que c'est compliqué, en fait. Si vous avez des donations en amont, vous pouvez donc donner 100 000 euros tous les 15 ans à vos enfants. Donc vous pouvez en fait transmettre vous y prenez assez bien, plusieurs millions d'euros sans payer un impôt. Et si vous y prenez mal, si vous transmettez tout d'un bloc à vos enfants au moment de votre décès, si vous avez des actifs qui ne sont pas exonérés, vous pouvez payer des taux à deux chiffres. Donc c'est ça le paradoxe aujourd'hui en France, c'est qu'on a un impôt qui est très dual. Si vous transmettez en dehors de la famille, vous payez des taux très importants. Et au sein de la famille, à succession égale, vous pouvez avoir des taux d'imposition très différents.
Mais Nicolas Frémaux, l'occasion du grand débat a été également saisie par beaucoup de personnes, ou bien des participants, ou bien des ministres aussi, pour faire des propositions fiscales. Et alors là, c'était très, 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 très hétérogène. Il y avait vraiment de tout. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un système fiscal juste, il peut être construit comme ça, de manière itérative, avec un ajout? Alors là, on va modifier les successions. Là, on va modifier la TVA sur les produits de première nécessité. Ou bien, est-ce qu'il ne faudrait pas une remise à plat?
Je pense qu'une remise à plat s'impose, en effet. Enfin, on est dans un système aujourd'hui où on va taxer davantage les revenus du travail. Donc on parle d'un gouvernement qui met en avant la valeur travail. Aujourd'hui, si on prend le cas des successions, le cas de patrimoine, vous pouvez taxer, enfin, si vous recevez 1 million d'euros de salaire, ce qui est déjà beaucoup, vous allez davantage payer justement d'impôts sur ces 1 million d'euros de salaire que sur le 1 million d'euros d'héritage que vous touchez. Alors que, bah, évidemment, le côté est juste ou justement, là joue pas du tout. Et on retrouve la même chose sur les revenus du patrimoine qui aujourd'hui vont être taxés de façon proportionnelle et pas progressive. Donc il y a une remise à plat assez générale. Et aujourd'hui, justement, les droits de succession, enfin, il faut les penser aussi dans le système fiscal en général. Donc on peut pas, l'impôt sur les successions, on résout pas tout du tout. Et justement, faut penser aussi à l'ISF, aux revenus, enfin, à la taxation du patrimoine en général et aussi des revenus de façon plus globale. Donc c'est une remise à plat qui est nécessaire. Oui.
Thomas Porcher.
Oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, je pense qu'il faut aussi voir faut pas oublier de rappeler les très bons côtés de notre modèle social de manière générale. Et j'ai l'impression toujours qu'on s'attaque, qu'on veut casser ce qui fonctionne bien. Par exemple, nous avons parmi les retraités les moins pauvres au monde, et on augmente la CSG, vous voyez, sur les retraités, alors que c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. La sécurité sociale est quelque chose qui fonctionne bien. On a, il y a personne qui fait faillite en France parce qu'il a une maladie. Aux États-Unis, vous avez 2 millions d'Américains par an qui font faillite à cause d'une maladie. Vous avez les prestations sociales qui fonctionnent très bien, qui sont redistributives. Je veux dire, le taux d'enfants pauvres, le taux d'enfants vivant dans des familles pauvres, c'est-à-dire 80% du revenu médian, c'est-à-dire moins de 1000 euros à peu près, il est à autour de 24%, avec après redistribution, une fois qu'il y a eu toutes les prestations sociales, on passe à 7%. Donc on baisse le nombre d'enfants vivant dans des familles pauvres. Donc ça fonctionne bien. Les prestations sociales, elles soutiennent les 10% les plus pauvres. Donc il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent et auxquelles il faudrait pas toucher. Et effectivement, après, il y a une fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité du travail qui est plus lourde que la fiscalité du capital. Il y a plein de choses qu'il faudrait retoucher comme ça. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on attaque toujours ce qui fonctionne bien et qu'on laisse de côté ce qui fonctionne mal.
Baisser la TVA sur les produits de première nécessité, c'est une bonne idée ?
Bah, moi, je pense que les Gilets jaunes, ils ont montré que ce type d'impôt neutre était injuste. Enfin, TVA ou taxe carbone, c'est-à-dire un impôt sur la consommation. Voilà, un impôt sur la consommation était de fait inégalitaire. Les impôts comme la TVA, ils se payent et ne regardent pas la personne qui le paye. C'est-à-dire, quand vous êtes pauvre, ça revient à plus cher dans votre revenu que quand vous êtes riche. Donc, il y a des vraies questions à poser là-dessus. Et idem sur la taxe carbone. Quand vous êtes un smicard, il vous reste 32 euros par mois à peu près pour le loisir. 30 euros pour le loisir, grosso modo par mois. Quand vous vivez, vous devez faire 50 km par jour parce que vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun. Donc vous êtes dépendant de votre voiture. Et ben, l'augmentation des prix des carburants, pas qu'avec la taxe carbone, mais aussi avec la taxe carbone, a mangé la moitié de ces 30 euros. C'est-à-dire qu'un smicard, il lui reste que 15 euros. Donc lui, il ressent tout de suite quel est l'impact de l'augmentation des carburants sur sa dépense de loisirs, sur sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que les pétitions contre la hausse du gazole font plus 1 million de personnes, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Donc toutes ces taxes sur la consommation, de fait, c'est de la fiscalité régressive et pas progressive. Voilà.
Nicolas Frémaux, vous en pensez quoi ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. On a un système en France où on paye beaucoup d'impôts, mais la grosse partie des impôts sont des impôts indirects, donc la TVA justement, ou la CSG aussi, qui est un impôt sur le revenu, mais que tout le monde paye en proportion de son revenu. Tout le monde a le même taux, donc de 8-9%, quel que soit le revenu. Donc c'est une grosse partie de l'impôt en France, c'est pas progressif en fait. Donc ça, le problème, c'est qu'on est revenu, et c'est une tendance assez générale, on revient sur la progressivité de l'impôt. Donc pourquoi on a demandé justement, pourquoi il y avait un mouvement pour avoir un impôt qui est progressif, c'est parce qu'il y a deux logiques à l'impôt en général. C'est une logique incitative, une logique contributive. Donc la logique contributive, c'est-à-dire si vous avez davantage, vous pouvez contribuer davantage aux biens publics justement qui vous ont permis d'en arriver là. Donc si on prend l'exemple de Google tout à l'heure, c'était le cas. Il y a la logique incitative aussi qui vous incite justement à entreprendre, à faire d'autres choses derrière. Donc aujourd'hui, on a une remise en cause vraiment assez profonde de la progressivité du système. C'est un gros problème. Donc la remise à plat justement de la TVA ou le système fiscal en général peut porter sur ce choix-là aussi.
Et justement, lorsqu'on voit ces systèmes fiscaux, parce que donc on a effectivement des choix qui ont été faits en France avec la CSG qui est une spécificité française, ça n'est pas dans tous les pays où on a ce type de taxe. Est-ce qu'il y a un système fiscal qui vous paraît beaucoup plus équitable que le nôtre, puisque vous avez évoqué par exemple deux pays du Nord tout à l'heure, Nicolas Frémaux, qui ont modifié leur système fiscal dans le sens finalement d'une plus grande inégalité?
Oui, dans le cas de la Suède, en fait, c'est un pays qui est souvent pris en exemple, mais qui va vers davantage d'inégalités, où justement, on va faire peser beaucoup de la TVA est aussi important dans les pays nordiques, c'est un trait assez important. Et on a à l'inverse, donc, baisser des impôts qui étaient fortement progressifs, qui touchaient qui touchent directement la mobilité sociale, ces aspects-là. Et en effet, ce qui est important, c'est de mettre en parallèle les débats qui aujourd'hui en France, ou l'absence de débat, justement, sur l'ISF, sur les droits de succession, et ce qu'on a aujourd'hui au Parti démocrate, aux États-Unis, où vous avez des propositions et qui mettent vraiment l'enjeu fiscal au centre du jeu. Donc vous avez les différents candidats qui sont déclarés, donc Elizabeth Warren ou Ocasio-Cortez, donc qui est la jeune candidate démocrate, qui mettent en avant ces propositions-là en disant qu'il faut revenir justement à ce que faisaient les États-Unis finalement avant Reagan, c'est avoir des taux progressifs, des taux marginaux supérieurs, donc une progressivité très importante, de quasiment confisquer au-delà d'un certain seuil l'impôt. Et vous avez donc ce système-là qui est assez important. Donc ce qui est assez cruel, c'est de voir en France le niveau du débat par rapport à ce qui se passe aux États-Unis au sein du Parti démocrate.
Thomas Porcher.
Mais je suis entièrement d'accord. Vous savez, dans les pays de l'OCDE, si on n'avait pas touché à la fiscalité et aux transferts dans l'ensemble des pays de l'OCDE, on aurait des inégalités qui seraient 40% inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc il y a un lien très clair entre fiscalité et transferts sociaux et hausse des inégalités. Donc dès que vous affaiblissez ça, les inégalités augmentent. Les États-Unis l'ont fait dans les années 80, la Suède l'a fait un peu plus tard avec la flexisécurité, et nous sommes en train de le faire là, puisqu'on casse finalement on enlève les cotisations sociales sur les salaires, on baisse la fiscalité pour couper dans la dépense publique. Donc nos inégalités, qui avaient quand même augmenté, mais qui avaient moins augmenté rapidement que les autres pays, là on est dans une phase de rattrapage. Et je comprends pas quelle est l'issue de ça. Enfin, pourquoi on fait ça? Est-ce que les États-Unis vont si bien? L'élection de Trump a montré qu'il y avait une vraie fracture. Le Brexit, on parlait de capitalisme Reagan-Thatcher, donc c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Regardez politiquement ce que ça a donné. C'est-à-dire ce sont des extrêmes qui ont été au pouvoir et qui ont joué sur cette fracture sociale. Et en Italie, c'est pareil. En Italie, on parlait beaucoup de Matteo Renzi, qui était finalement le Emmanuel Macron italien, de la loi super loi travail de Matteo Renzi, des contrats de chantier dont on a parlé aussi, qui avaient déjà été faits en Italie. Le résultat, il a été là politiquement. Et donc la vraie question est, pourquoi on doit rattraper finalement ces pays-là quand on connaît l'issue politique?
Votre point de vue à ce sujet, Nicolas
Frémont? Oui, je valide ce point de vue aussi. Non, mais c'est vraiment...
Lorsque l'on voit, donc il y a semble-t-il deux impératifs à concilier, enfin à moins que vous soyez en désaccord avec cette présentation des faits, à la fois donc l'efficacité de l'impôt et la justesse de l'impôt. L'efficacité, est-ce qu'il freine l'activité économique ou pas? Là-dessus, l'arbitrage qui est fait en France vous paraît aujourd'hui inégalitaire?
Oui, ce qui est important, c'est que il nous reste peu de temps là, mais les questions sur les droits de succession, en fait, on peut avoir un impôt, ça paraît un peu contre-intuitif, mais un impôt qui est à la fois juste, donc ça paraît assez évident, et qui est aussi efficace, en fait. Donc justement, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets qui ont été mis en évidence, et pour aller très vite, ce qu'on retrouve, c'est ce qui a été évoqué par les libéraux pendant très longtemps, c'est dire que ne pas taxer l'héritage, en fait, ça désincite les gens à travailler, ça désincite à faire tout seul, parce que justement, ils héritent et ils ont plus grand effort à faire après. Donc ce qui a été montré, en effet, c'est quand les personnes qui vont recevoir des héritages importants vont avoir tendance à partir en retraite plus tôt, ce qui est tout à fait rationnel à nouveau. Je ne critique pas du tout le comportement, mais taxer fortement l'héritage, ça vous fait donc, et progressivement à nouveau, ça vous fait à la fois donc des recettes fiscales supplémentaires et aussi ça incite les gens à travailler et donc ça peut générer ensuite des recettes fiscales derrière tout ça. Donc il y a aussi un double rôle efficace et juste de l'impôt sur les successions, des impôts en général.
Merci Nicolas Frémont. Les nouveaux héritiers, c'est publié aux éditions du Seuil. Et merci à Thomas Porcher.